science-fiction qu'on en Europe. Puis d'ailleurs, bon, un petit peu au-dessus de Lausanne, en Suisse. À ses côtés, oui, il y a pas mal de polars. J'ai bien aimé le titre Jambon dodu chez Lycéas, ça m'a fait beaucoup rire en préparant. On parlera notamment, je ne sais pas prononcer le titre chez Latalan, Zorg. Zorg. En parler. À ses côtés, donc dessinatrice, scénariste, coloriste de bande dessinée. On parlera de ses séries La Cacherelle et Les Fantômes de Neptune, qui est la dernière en cours et qui est plutôt steampunk. Donc voilà, l'imaginaire est aussi coloré. Et puis Georges Ponchard, qu'on avait lu avec Forteresse il y a une petite dizaine d'années chez Ailleurs et Demain à peu près. Donc on prendra quelques nouvelles. Laurent Schumer, qui avec Quantica, de nombreux lecteurs, puis j'ai eu un recueil de nouvelles qui arrivait, qui repartira plutôt dans le space opéra, et pas que. Et puis à mes côtés, Jean-François Thomas, auteur de Polar, de nouvelles de SF, anthologie, ce qui a mené une anthologie en Suisse en 2009, avec des futurs insolites qui est sur la table, et qui a donc peut-être aussi un regard un petit peu global sur tout ça. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire déjà un tour d'horizon des univers de chacun pour essayer de confronter un petit peu les regards et ce qui les intéresse dans la science-fiction. Et puis après, on parlera véritablement de la Suisse comme pays d'imaginaire. On commence avec François. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Metakin? Metakin, alors, avec un micro. Ça marche.
Alors, Metakin est un roman de 850 pages en deux tomes qui a pour fil conducteur un médicament imaginaire qui s'appelle la Metakine. La Metakine est un médicament miracle qui rend les enfants intelligents, disciplinés, qui les rend absolument performants à tel point que leurs enseignants et leurs parents sont obligés d'en prendre aussi. Et finalement, toute la société va s'y mettre à cette fameuse molécule. Alors, ça pose quelques problèmes sociaux, économiques et autres que j'essaye d'exposer au travers de 6 personnages qui représentent différents points de vue autour de ce médicament. Ça, c'est le point de départ. Le médicament, c'est un peu le fil conducteur du livre. À part ça, j'aborde beaucoup d'autres thèmes dans le même roman, à savoir les ordinateurs quantiques, l'interconnexion avec le cerveau et la machine, les lanceurs d'alerte, ainsi que beaucoup d'autres thèmes qui, je l'espère, font un peu une toile de fond sur un univers dans un futur relativement proche. Donc, pas d'anticipation très lointaine. En revanche, dans le deuxième tome, cela n'empêche pas d'entraîner le lecteur dans des délires et dans des aventures spéculatives assez poussées, bien que le deuxième tome se passe quasiment en une seule journée. Je propose un dépaysement qui va entraîner le lecteur dans des dimensions tout à fait inédites. Je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler, simplement pour conclure, disons que je me suis livré à une anticipation à la fois linéaire, c'est-à-dire une projection un peu de certaines tendances du moment, en particulier les pratiques de l'industrie pharmaceutique, en essayant d'être pas trop manichéen, c'est-à-dire ne pas mettre la faute sur l'industrie et que ce sont les méchants et puis il y a les bonnes victimes de l'autre côté. Finalement, il y a une offre des médicaments miraculeux de l'industrie. Et en face, vous avez une demande, un public qui espère des miracles de la chimie et de l'industrie pharmaceutique. Donc, essayez d'être toujours un peu nuancé dans cette problématique. Ça, c'est pour l'anticipation linéaire. Et puis, je me livre à quelques sauts imaginatifs comme ça dans le futur que j'essaie toujours de rattacher à la vraisemblance scientifique. Donc, ça s'appellerait ça, ces sauts, plutôt des spéculations, un peu des sauts de paradigme dans ce qui pourrait devenir le futur proche, mais toujours avec le souci de vraisemblance scientifique. Vraisemblance, hein, pas vérité, c'est un peu différent.
On va passer le micro à ton voisin. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce roman chez la Talente qui a 22 ans?
Juste pour expliquer d'abord à peu près tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait sans faire exprès.
sûr pour dire de plein de choses, de toujours de genre, quand j'écris des livres. Ça, c'est le premier que j'ai écrit un peu en cachette. Je pense que j'avais une bonne histoire, mais je ne savais pas si je savais écrire. Et Nathalie, finalement, m'a dit, ils ont fait mal l'esprit d'être intéressés. Ils ont décidé de classer un SF, puisque c'est un roman post-apocalyptique, et qu'il y a quelques indices qui signifient que ça se passe dans le futur. C'est la quête, c'est une longue quête dans un pays qui n'est plus que boue et sable mouvant. Et la thématique que j'ai cherché à aborder là-dedans, du moins la thématique consciente, c'était de montrer comment on pouvait transformer n'importe quel jeune homme entre 18 et 40 ans en un tueur de phalanges ou quelque chose comme ça.
Voilà. Alors peut-être est-ce qu'on parle des fronts de lecture et puis peut-être de bloc, justement, de science-fiction.
En fait, moi j'avais envie, c'est faire un je fais de la BD, et puis je suis passée par pas mal de. Dire de thèmes différents, donc j'ai fait de la fantasy, et bah, là justement j'ai envie de faire du steampunk parce que tout ce qui est justement à l'époque et victorienne ça m'a toujours plu. Mais et bon, personnellement, à titre personnel, j'aime beaucoup l'astronomie et je trouvais sympa en fait, de pouvoir poser une histoire à une époque où, en dehors le fait que ce soit steampunk, la belle époque et tout ça, c'était vraiment une époque très florissante avec beaucoup d'innovation, etc. Dans l'ère industrielle, et je trouvais ça intéressant d'affilier les deux. Et donc, du coup, c'est l'histoire de Mina, en fait, qui est une jeune fille qui travaille et qui a toujours rêvé d'exploration en fait, spatiale et qui va, par le biais, justement, on va dire, du hasard et des liens familiaux, être mêlée à une histoire, en fait, sur l'exploration spatiale. Voilà.
Georges. Forteresse.
Avant que je me dise avant ça, qu'est-ce que vous avez dit de ça sa série, ça nous donne très envie de l'acquérir parce que le côté steampunk et le côté intérêt pour l'astronomie, je trouve que ça doit être une très belle combinaison. Donc ça m'intéresse assez. La Forteresse, c'est un bouquin qui est sorti il y a 12 ans déjà, qui était une aussi une anticipation moyen terme à 30 ans, pour l'essentiel dans une Europe qui était déglinguée, qui est sortie de guerre civile contre les extrémistes, en tant que la population locale et les extrémistes islamistes, et qui est sur une guerre dont, indépendamment de tout le reste, tous les gouvernements sont sortis très, très affaiblis. Et l'Europe et le monde, même si les pays existent encore, est quand même de facto régi par des grandes corporations, qui sont parfois des gangs, ou qui sont. Et une de ces grandes corporations s'appelle Babylon Corporation, elle a son siège en Espagne, et elle a un président qui. Elles ont des structures très, très pyramidales, hein, le président a un nombre de pouvoir, et il y a une menace d'assassinat contre lui qui parlait aux oreilles du personnage principal du bouquin, qui s'appelle Adrian Claiborne, qui est le responsable de la sécurité. Et il s'engage alors une enquête où ce que je mets en scène, c'est un petit peu l'espèce de parano inévitable de celui qui a une position de ce type, parce que tout peut être armé dans une très haute technologie, on perfectionne toujours les armes, donc on perfectionne toujours les contre-mesures, donc il faut en gros de nouvelles couches d'armes, et finalement tout peut être armé. Et puis finalement, plus j'y pense, plus le thème central de Forteresse, c'est peut-être l'erreur, parce que toute son enquête, à un moment donné, est basée sur une erreur fondamentale. C'est un bouquin qui est basé sur sept personnages, et c'est la raison pour laquelle le deuxième bouquin s'appelle Heptagone, c'est-à-dire que c'est un polygone à sept côtés, parce qu'il y a sept chapitres, dont chacun a comme titre le nom d'un des personnages de Forteresse. Je ne sais pas si ça a été écrit après, c'était peut-être que l'idée c'était d'être une suite, mais en fait, c'est. Dans un des cas, c'est plutôt une préquelle. Dans un des cas, c'est simultané. Dans un des cas, ça se passe après. Bon, voilà. Et ça développe un certain nombre de choses. Par exemple, le chapitre de Fuller développe la manière dont les États-Unis, à un moment donné, sont devenus. Ça s'appelle l'URBS, l'Union des États publics américains. Et c'est devenu une dictature théocratique. Ce qui me vaut quelques remarques amusées. Des observateurs de la vie américaine. En ce moment, d'ailleurs, on aura plus tard une table ronde à ce sujet. Une petite remarque qui est d'ailleurs très drôle, c'est que très largement, mais pas lui. Et voilà, donc Pentagon, c'était cette structure-là. C'était... Moi, je dis toujours que Forteresse, c'était un peu comme une planète. Et puis Pentagon, c'était cette petite lune qui orbite autour et le tout forme un ensemble. Sur, voilà.
Là, j'en ai assez dit. Voilà. Mais sur la quantique, alors, on sait.
Je pense qu'il serait mieux d'avoir le Forteresse d'abord. On peut à la limite lire Pentagone après, et puis après mieux comprendre tout ce qu'il a dit. Je recommanderais quand même d'aller Forteresse avant. Et puis ce que je recommanderais malheureusement, ce que je n'ai pas fait, il faudrait le faire comme lecteur, ce que je n'ai pas fait comme auteur, c'est qu'il ne faudrait pas attendre 7 ans entre la lecture des deux, parce que sans ça, on perd des repères.
Laurent
Sacre.
Oui, bonjour. Moi, j'ai écrit Antica, qui est sorti à la Talente à partir de 2012, 2013, 2014, 2015, trois romans. Le premier, c'est Vestige. Le deuxième, L'Ouvreur des Chemins. Le troisième, Origine. Et il y a une suite, qui est une suite, on va dire, alternative, qui s'appellera pas Tome 4, ou rien à voir, qui s'appellera Les Mondes de Jade, qui reprend l'univers et certains personnages de la série Quantica, qui sortira, je pense, en 2019, on va dire. Alors ça, c'est vraiment ce que j'écris, c'est du Planète Opéra, saupoudré d'un peu de l'art science. J'essaie de montrer des univers en fait, qui pourraient être vraisemblables, c'est-à-dire à partir de la science, on se base sur la science. On parle d'exoplanètes, de mondes qui sont distants, qui sont atteignables dans le futur par l'humanité, et notamment une planète située dans un système solaire qui s'appelle Altamira, c'est un système double, dans lequel il y a une planète glacée qui orbite, qui est moyennement, qui est normalement dans la zone habitable, mais visiblement qui a subi un changement d'orbite et qui s'est glacé. Et les premiers colons qui sont arrivés sur cette planète, après un long voyage, ont découvert en fait un artefact en orbite, c'est-à-dire un vaisseau spatial. Enfin, ils ne savent pas au départ ce que c'est, mais parce que c'est une forme organique. Donc ça ne ressemble pas à un vaisseau spatial, mais il s'avère que ce sera un vaisseau spatial. Et on commence, l'histoire débute avec un personnage qui s'appelle André Pasquier, qui est une exobiologiste. Et dès son arrivée dans ce système planétaire, elle a des sortes de visions, mais plutôt auditives. Elle entend une mélodie et un rythme qui l'appelle dans les profondeurs de cette planète. Et elle est très scientifique, donc elle est très étonnée, en fait. Donc c'est pas, elle n'est pas normalement, elle ne se laisse pas envahir par ce genre de superstition. Mais elle est d'origine indienne, hindoue. Et après, ça fait des échos avec son passé, en fait, de petite fille indienne et musicienne. Et elle va décider en fait, de lancer une expédition scientifique à travers les 4 km de la base de glace en fait, de la carapace qui couvre cette planète, et elle va découvrir des vestiges. Ils vont l'entraîner en fait, après 3 tomes sur la planète d'origine, les créatures qui ont laissé ce vaisseau spatial en orbite. Et c'est une plongée intérieure en elle-même, puisque c'est un personnage qui n'a pas eu la mémoire en tant qu'enfant, qui a eu subi un traumatisme dans l'enfance, elle ne sait pas ce que c'est. Et la civilisation qui a laissé ses vestiges sous cette carapace glacée en orbite ont également subi une perte de faculté, une perte de mémoire. Et ces deux histoires vont se mélanger. Voilà. Donc,
je passe la parole à Jean-François Thomas. Je te pique ta casquette d'auteur pour te mettre la casquette un petit peu d'anthologiste. Quand tu écoutes tous ces univers et tous ces témoignages, ont-ils des choses en commun autres qu'être suisse? Y a-t-il un imaginaire suisse?
Il y a un imaginaire suisse. Je crois qu'on peut répondre non. Je me suis déjà posé plusieurs reprises sur le sujet. Donc, comme tu disais tout à l'heure, c'est une anthologie de 2009. L'anthologie de 2009, c'est pas la dernière. Ouais. C'est cette anthologie-là qui s'appelle Des Richards Imaginaires, avec un dessin de François Rouillet, ici présent. Parce que François Rouillet, vous l'a pas dit, mais il est aussi illustrateur. Multiples talents. J'ai fait cette anthologie à couleur pour montrer que la science-fiction en Suisse existait. C'est-à-dire que je suis allé chercher des textes oubliés, disparus, inconnus, et aussi des textes d'auteurs plus connus comme François et Georges. Et puis l'idée c'était de dire, ça existe aussi en Suisse, la science-fiction. Et puis ensuite, la deuxième anthologie
passage, qui se met à écrire et qui commence à publier. Alors, l'idée, c'est de dire, bah, voyez, la science-fiction, elle est vivante. Parce que c'est depuis les années 2000 à peu près, il y a effectivement pas mal de jeunes auteurs qui commencent à publier. Mais autant dans les recherches historiques que dans ce qu'on vient d'entendre, on voit bien que les sujets sont divers. Il y a peut-être une composante un peu plus forte sur, on va dire, est-ce que je peux dire, critique sociale, enfin les problèmes de notre temps. François évoque les problèmes de la pharmacopée. Georges, c'est les problèmes de la sécurité poussés à l'extrême, mais Laurence nous entraîne dans l'espace, et puis l'alpinisme, je ne connais pas son nom parce que je ne suis pas très bon de décider, mais c'est le steampunk avec aussi une évasion. Et puis Olivier, comme tu as dit tout à l'heure, il a un siège à Sarah, et puis il fait des romans qui peuvent se dérouler dans plusieurs univers différents. Alors, à mon avis, il n'y a pas de spécificité suisse. Stéphanie Nicolas dit qu'il y a peut-être une composante sur l'humour, c'est-à-dire sur la dérision de l'humour, des textes humoristiques qui mènent les choses à contre-pied. Ça, c'est vrai, je pratique ça aussi. Peut-être c'est peut-être une des caractéristiques.
Voilà. Mais dans le panel, pas de fantaisie. Alors, tout le monde peut répondre. Est-ce que c'est...
Il existe une auteure qui s'appelle Mélissa Palien, qui a publié trois romans de fantaisie, c'est une auteure genevoise, mais elle n'est pas ici. On va faire le cas d'elle.
C'est Marie-La, qui est genevoise, qui fait de la fantaisie, et puis du fantaisie urbaine, c'est ça. Marie-La Calman, qui n'est pas là, mais elle vient là, je ne sais pas.
On peut aussi signaler Florence Cochet, qui elle écrit du de la littérature d'anticipation aussi.
Est-ce que vous, en tant qu'auteur suisse, du coup, il y en a un groupe, un mouvement, vous lisez les uns les autres, comment ça se passe en termes d'identification un petit peu d'auteur?
Sûrement, ce qui me frappe effectivement, alors, c'est cette espèce de pépinière, chaque fois qu'il y a cette. Il y a un bulletin de l'association des amis de la maison d'ailleurs qui a publié, je ne sais pas, avec quelque chose que c'est trimestriel, je ne sais pas quoi. Et chaque fois que je reçois, j'ai l'impression qu'on annonce la publication donc, de vos auteurs suisses. Ou, enfin, précisons une chose, hein. on parle de Suisse romande en général, donc on parle d'un million et demi à peu près de bassin de population. C'est aussi une des questions fondamentales quand on parle de science-fiction suisse. Il y a des francophones ici, on va le perdre de vue.
Et moi, ce qui a eu un déclenchement, peut-être à un moment donné, avec la toute première anthologie qui avait été réalisée pour l'éditeur Kesselring à l'époque, par Roger Gaillard, et ça fait quoi, tout début des années 80, parce qu'on est encore dans les années 70, pas 70 ou 80, oui. Alors là, il y a un petit groupe qui s'est. Qui s'est constitué, autour de Lausanne, il y a eu pas mal d'échanges. Et puis c'est cette dynamique qui s'est perpétuée et qui continue à tourner. Mais je répète, alors il y a l'Italie par rapport à l'aspect numérique de la population en question, et puis de tout ce qu'on dit à propos des difficultés d'édition, des marges très basses de lectorat de SF, qui est quelque chose d'extrême.
Il y a en fait deux mouvements, on va dire ça comme ça, qui existent et qui réunissent les amateurs de science-fiction. Il y a l'association des amis de la maison d'ailleurs, qui a été créée lorsque Pascal Ducommun était conservateur, encore Pascal Ducommun qui est ici, ancien conservateur de la maison d'ailleurs. Alors, l'association des amis de la maison d'ailleurs, elle s'est créée, et puis elle existe encore, et c'est l'association dont Georges parlait, qui fait un petit bulletin annuel ou bisannuel. Et puis, il existe les mercredis de la science-fiction. Alors, les mercredis de la science-fiction ont été créés à Paris. Ensuite, ils ont essayé à Genève, Laurence, tu les connais ceux-ci. Et puis, ils ont essayé ensuite à Lausanne. Et dans ces mercredis de la science-fiction, il y a souvent des réunions informelles. Où un mercredi par mois, les gens se réunissent, se disputent, parlent de leurs projets, et ça, ça crée justement un mouvement ou une aberration parmi les jeunes auteurs.
On pourrait parler d'une autre occasion de réunir, de fédérer les écrivains et les créateurs dans le domaine de la science-fiction en Suisse, c'est paradoxalement à l'étranger, à Nantes, parce que d'une part, un des éditeurs qui a publié beaucoup d'auteurs suisses, c'est la Talente, donc ça c'est l'aspect éditorial, mais autour du festival des Utopies à la Nantes, il y a eu régulièrement des événements, des expositions, des réunions d'auteurs et des voyages communs entre une espèce d'expédition helvétique chaque année, il y a toujours une bonne représentation. On sait aussi que Patrick Diguer a longtemps, qui était donc Patrick Diguer, qui était directeur de la maison d'ailleurs pendant une dizaine d'années, a longtemps exporté ses expositions lors du festival des Utopiales. Donc, et puis Pascal, Patrick Diguer est resté sur Nantes, puisque maintenant c'est l'actuel directeur de la, du lieu unique, le Centre culturel de Nantes. Ce qui fait que cette polarisation Nantes-Suisse-Romande a été aussi une occasion de réunir et de rassembler un peu la créativité suisse, paradoxalement.
Donc je note qu'il y a quand même une espèce de groupe constitué de petits milieux, ou de grands milieux d'ailleurs. Je ne vais pas mettre petit en cas de milieu. Suisse, quel est le rôle un petit peu de la maison d'ailleurs? Vous avez la chance d'avoir le musée de science-fiction en Europe. Quels sont vos liens en tant qu'auteur avec ce musée? Est-ce que c'est important ou est-ce que c'est juste l'association à côté? Les liens sont distants maintenant. En fait, François Rouillet a été président du Conseil de Fondation pendant quelques temps. Moi, j'ai été 10 ans président du Conseil de Fondation de la Maison d'ailleurs. Cela dit, j'ai arrêté en 2011 lors du changement de directeur lorsque Patrick Diguer est parti et que nous avons engagé, le Conseil de Fondation a engagé Marc Attala. Et puis, j'avoue que je suis plus très actif dans le domaine de voir les expositions. Enfin, je suis un visiteur normal. Mais c'est vrai que Marc Attala parfois il demande aussi des conseils, à mon avis, et ce genre de choses. Mais ça, c'est très distant.
Est-ce que ça va pas se réobliger, par exemple, pour les auteurs comme Olivier Eval ou Laurence?
Enfin, moi j'ai très très peu de lien. Si. De temps en temps, avec Marc Attala, on fait des tables rondes. S'il y a par exemple le livre Soleil qui est à mort, des choses comme ça, on se connaît plutôt comme ça. Mais moi j'ai jamais eu le temps d'aller par exemple voir les vernissages, etc. Parce que souvent j'ai des stages le samedi. Enfin, j'ai très très peu. Je trouve très bien la démarche, mais malheureusement j'ai pas de lien, il n'y a pas d'atelier donné. Dans le cadre de la maison d'ailleurs, enfin, de mon point de vue, il y a un lien minimal pour moi, alors pour les autres, c'est certainement différent.
Alors, la Suisse, en termes de librairie, c'est un petit peu différent de la France, avec des réseaux différents et des libraires différents. Comment est-ce que c'est constitué tout ça? Il y a beaucoup de dédicaces, c'est vivace, vos liens avec les libraires, ou est-ce qu'au contraire, tout se passe plutôt en lien avec la France hein? Des questions à tiroir, hein, donc ça nous permet de. Mal, pas vrai.
En fait, ça, je pense qu'il doit y avoir, en tout cas, au niveau de la BD, autant de dédicaces en Suisse qu'en France. C'est assez. Après, ça passe aussi par les maisons d'édition. Donc, après, je pense qu'il doit y avoir des filtres, alors j'en sais rien, parce que je sais pas dans le secret de comment ça se passe, en fait. Après, dans les classifications de qu'est-ce qu'on envoie à l'auteur, puis après, il y a aussi des libraires qui viennent directement vous demander. Il y a plusieurs manières finalement d'aller dédicacer, donc c'est en tout cas ce qui fonctionne au milieu de la BD. C'est probablement très différent, je pense, avec le bouquin, mais en tout cas, en ce qui concerne la bande dessinée, ça passe comme ça. Et oui, c'est vrai que quand on sort un bouquin, en tout cas, on fait des tournées, il y en a autant en Suisse qu'en France.
Justement, je voulais intervenir parce qu'effectivement, j'étais auteur de BD avant. Et effectivement, les libraires me contactaient, je faisais beaucoup de dédicaces, que ce soit en France ou en Suisse, en tant qu'auteur de BD. En tant que romancière, je fais 3 festivals dans l'année. Donc, c'est les Utopias, les Imaginales, une fois sur deux, le Salon du Livre. publié chez Payot. Mais vraiment, que ce soit en France ou en Suisse, moi personnellement, on ne protège jamais. Donc voilà, c'est un peu. Mais par contre, on va dessiner, oui, tout le temps. Donc c'est différent.
Et pour le domaine du polar, Olivier, est-ce qu'il y a pareil, les groupes constituent un petit milieu de l'auteur. Moi, je fais partie de d'aucun domaine, de tous les domaines. Si j'ai fait le polar, c'est même sans savoir. C'est dans ce qu'il y a, ce qui existe, comme il existe, en tout cas, la frontière avec la Suisse. Il existe des festivals d'Algérie itinérants en France, en Savoie aussi. En Suisse, on a des choses équivalentes. Par exemple, il y a le roman des romans maintenant, qui est une sélection de romans qui sont présentés dans les écoles, etc., qui donnent la possibilité de rencontrer des classes terminales de lycée. Et donc, ça, c'est plutôt dans ce domaine-là qu'il y a une assez bonne dynamique.
Comment vous expliquez cette dynamique, ce dynamisme qu'on a vu depuis 2000, un tas d'auteurs suisses arrivés dans les domaines de la littérature de l'imaginaire? Est-ce qu'on a des explications à ça?
Alors, je pense que ça vient assez nettement du jeu de rôle. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont commencé par s'intéresser au jeu de rôle et à construire des jeux de rôle, à jouer des jeux de rôle, créer des personnages, créer des univers. Et ces gens continuent à développer leur même par le biais de l'écrit. Et je crois que ça, c'est une des grandes explications. Et je crois que c'est valable aussi pour la France, ce genre de phénomène.
Je pense aussi qu'on est dans des gens qui ont entre, on va dire, 20 et 40 ans, qui font partie d'une génération. Désolé de dire ça comme ça, la geekitude, ça a commencé à devenir quelque chose qui était beaucoup plus accepté. Et ce qui est bien, c'est que ça ouvre la porte à plein de gens, les gens qui se sont découverts qu'ils aimaient ça. Ils aimaient le fantastique, ils aimaient la fantasy, ils aimaient la science-fiction. Et du coup, ben, je pense que ça a créé des vocations beaucoup plus maintenant. Et du coup, ça a en même temps engendré une demande. Et donc, c'est bien, ça s'auto-alimente. Et à mon avis, enfin, moi, je pense que ça fonctionne aussi comme ça.
Il y a un facteur dont on n'a pas parlé aussi, c'est qu'il y a eu à plusieurs reprises l'organisation d'ateliers d'écriture. Et ces ateliers d'écriture, ils ont stimulé des petits groupes d'écrivains par-ci par-là, et ils continuent de donner de temps en temps. Il y a des ateliers d'écriture, je crois que Laurence, tu animes aussi un atelier d'écriture. Donc il y a toujours cette tradition aussi là pour les gens qui sont. C'est une bonne stimulation.
Il y a aussi une chose, grâce au fait que l'aristocratie commence à décliner un peu, il n'y a plus de domaines littéraires qui sont mal vus. Le polar est accepté comme la littérature à son entier, et de même la SF. Et bien, parce qu'il y a une autre chose, il y a une multiplication des petits éditeurs, ils commencent à avoir meilleures subventions dans des livres, etc. Et donc, il y a plus de publications qui se font, c'est plus facile de publier. Et donc, il y a un renouvellement des écrivains et des domaines qui est assez vif. Et on est un peu quand même dans un pourcentage d'un pays privilégié. Après, nous, en Suisse, on a des gros problèmes avec la distribution. Par exemple, les livres qui sont publiés en Suisse sont très mal et difficilement distribués en France. Et ça, il faudrait que la France renonce à ces idées aristocratiques. Mais c'est un autre problème. Et on n'est pas prêt.
Pour ma part, j'ai pas fait de jeu de rôle. Je pense que j'aurais adoré, mais en fait, j'ai un peu trop vieille. Mais j'aurais adoré, franchement, je serais éclaté en
tant que. Je connais des roulistes. En fait, les rôles, ça existe depuis.
Par rapport à ce que tu disais, Caroline,
toujours ce sentiment-là, en termes d'imaginaire, comment ça se passe par rapport au milieu de la littérature générale.
Alors justement, j'ai un exemple là, tout récent et tout à fait encourageant. Il y a eu sur le territoire suisse romain l'année passée le lancement d'un concours littéraire par une fondation très richement dotée qui a organisé un concours littéraire, un concours de nouvelles qui a été proposé à tous les auteurs suisses romands, sans connotation de genre. Donc, les conditions étaient d'habiter le territoire suisse romand, et la deuxième condition était d'avoir publié quelque chose, d'avoir publié un roman, ce qui nous permettait de filtrer peut-être des écrivains encore trop novices et de s'intéresser vraiment aux. C'est une fondation très respectable qui s'est appuyée sur un éditeur de la place, à savoir Archdom, éditeur très respectable, et qui a diffusé son concours et son règlement, etc., via des institutions qui étaient plutôt des institutions, qu'on dira, de littérature générale, de littérature. Et ce concours, la publication des résultats de ce concours a eu lieu cette semaine, et il y a eu 86 textes nouvelles reçus, tout genre confondu. Il y a eu 7 nouvelles qui ont été retenues, et il y a au moins 3, au moins, parce que je ne connais pas toute la teneur de cette anthologie, au moins 3 nouvelles qui relèvent de la science-fiction. Donc on est là étonné de voir que quelque chose qui est ouvert à toute forme de littérature rassemble, c'est plus pas sur un thème de science-fiction, hein, le thème était très vague, c'était sur le thème de la nature, et sur un thème aussi peu spécifique, 3 nouvelles de science-fiction, au moins, à confirmer, s'il n'y en a pas plus.
Je peux. Alors, ça fait donc, j'écris depuis un moment, et en fait, ça fait 5 ans que je demande des bourses, différents organismes en Suisse, assez connu, et en fait, donc je n'ai jamais obtenu une bourse, et la dernière réponse que j'ai eue, c'était nous ne publions pas, nous n'aidons pas ce genre de littérature.
D'accord.
Et je ne citerai pas l'organisme très 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 connu, Prolusia. Donc voilà, donc j'ai un avis un peu plus tôt, nuancé et triste à ce sujet, en fait.
Je comprends ton désappointement. Effectivement, mais il me semble quand même qu'il y a un petit frémissement parce que Isabelle Falconier, qui dirige le Salon du Livre de Genève, l'année passée avait fait un petit espace littérature imaginaire. Et puis, lors de la sortie de l'anthologie que nous avons fait l'année passée, elle a organisé un vernissage dans une bibliothèque à Lausanne, et c'est elle qui dirige le débat. Donc, elle est ouverte à. L'imaginaire, Isabelle Falconier.
Georges, quand tu es sorti Forteresse, est-ce qu'il y a eu une étiquette autant de science-fiction ou est-ce que c'était un livre comme un autre?
Oui, il y a eu une étiquette autant de science-fiction parce qu'il y avait un certain bruit du fait que ça sortait dans la. C'est un premier roman qui sortait dans ce qui était la collection la plus prestigieuse de science-fiction dans la francophonie, qui donc d'ailleurs avait donné chez Lafon. Et. Le petit détail qui tue, c'est que c'était non pas le premier roman francophone, mais le premier roman non anglophone depuis 20 ans dans la collection. Donc, effectivement, ça avait attiré les critiques qui avaient fait. J'ai des critiques, alors une couverture et des critiques dithyrambiques, je crois qu'on en a vraiment pas autant, et en quantité et en qualité, dans la presse suisse. Ceci dit, aussi dans le monde des livres et dans le Figaro littéraire. Ça, c'est Lafon qui avait fait son travail de service de presse. On en a même parlé à la télévision. En fait, je veux dire, il y a eu une couverture qui était vraiment bien. Et à part ça, alors, si sous l'angle singularité de mon point de vue, moi, je pas tout. Je suis d'accord avec ce que disait Jean-François sur les spécificités thématiques. Je crois que ça aussi le cas en France. Ce que je ressens, moi, comme personne, alors les autres auteurs suisses, francophones qui sont là, je ne sais pas s'ils ont le même avis, on est quand même dans un petit pays
je râle toujours dans les festivals en France où on invite des gens, des James Morgan, des Richard Morgan, des Neil Stephenson, qui il faut un gros effort pour arriver à trouver un bouquin version originale. Donc c'est le cauchemar un petit peu des éditeurs francophones pour ça. Peut-être que mon réseau de référence comme ça littéraire dans le domaine était plus international et peut-être plus anglo-saxon, même s'il y a des traductions, que pour beaucoup d'auteurs, d'auteurs français, c'est possible.
Et on peut ouvrir les sujets qui fâchent, alors les relations avec la France. Parce que tout à l'heure, tu parlais de distribution. Quelles sont ces relations? Est-ce que, pareil, vous avez une étiquette d'auteur suisse ou vous avez simplement une étiquette d'auteur et que tout roule et que tout va bien?
En BD, par exemple. Il n'y a pas vraiment spécifiquement de soucis. Enfin, moi, j'ai aussi des copains belges. Enfin, c'est des auteurs. Mais, donc, ça, ça va. En tout cas, du niveau BD, enfin, moi, je ne sais pas. Enfin, moi, j'ai jamais de soucis avec ça de ce côté-là. Après, pour les livres, je n'en sais rien. Mais c'est bon, en tout cas.
Ton rôle,
au niveau de l'écriture, comme j'ai déjà dit, c'est très difficile pour les éditeurs suisses de se faire diffuser en France. Et puis, si un livre, quelque chose de qualité, est publié en France plutôt qu'en Suisse, alors les journaux suisses, ils se réveillent. C'est à l'air d'être une de qualité, ce que ça n'est pas forcément.
C'est pas toujours le cas, parce qu'en fait, j'ai eu un sentiment un petit peu quand mes bouquins sont sortis en France, un peu coûté par la Suisse. Quoi. Donc en fait, je sais pas, j'ai l'impression que ça passe des fois l'un à l'autre. C'est un peu. Voilà, je sais pas très bien comment ça fonctionne, mais c'est pas toujours optimal. Et voilà, ça dépend peut-être du journaliste aussi, de l'intérêt du journaliste. Ouais, c'est. Voilà.
Je dis que quelque chose, c'est un livre qui vient de sortir en poche en Suisse, et après il est sorti en France, un peu par accident, parce qu'on ne maîtrise pas forcément ses choix. Je suis un éditeur qui s'appelle Ageo, qui à l'époque était un éditeur gay plutôt rock, mais les journalistes, ils ont vu que le fait que c'était un éditeur français, ils ne se sont pas préoccupés ni intéressés que c'était un éditeur gay. Et je ne suis pas sûr qu'ils en aient autant parlé à l'époque. Mais bon.
Et pour vous, je trouve que j'ai eu toujours de bon accueil et de bonnes relations avec la France. Je dirais, lorsqu'on est publié par un éditeur français, eh bien, on a tout simplement, évidemment, une diffusion qui est plus garantie. Et ce que je dirais, c'est que pour un premier ouvrage, ou pour un livre résumé, en fait, c'est qu'en Suisse romande, jusqu'à une période plus récente, il n'y avait pas vraiment de collection ou de créneau spécialisé en matière éditoriale. Mais c'est bien. Et ça, je crois que c'est de l'ESF. Et ça, je crois qu'on peut en parler aussi, de la nouveauté aussi en matière de
Noël. Est-ce que ça, c'est assez positif aujourd'hui en France? On peut avoir le débat de l'étiquette, justement, en disant une collection spécialisée reste spécialisée et on a des ouvrages de science-fiction qui paraissent sans label SF dans les collections littérature blanche.
Ça, c'est un problème qui dépasse le seul critère suisse romain. C'est le problème de l'étiquette en global.
Alors, effectivement, il y a eu autrefois une collection de science-fiction en Suisse, c'était les éditions Rolf Kesselring, qui ont publié pendant 3 ans des ouvrages qui, paradoxalement, traitaient de la politique française, puisque c'est ce qu'on a appelé la nouvelle science-fiction française. Enfin, ça venait d'un pas, ça s'est arrêté, c'était très politique, c'était très gauchiste, c'était très révolutionnaire. Et puis, il n'y a plus d'éditeurs spécialisés en science-fiction. Et depuis quelques temps, en fait, après l'anthologie de Futur Insolite, qui a été publiée donc chez un petit éditeur venaisan qui s'appelle Elis Hellas, référence évidemment au film de sur de nouveaux problèmes de la diffusion. Alors, on en a ici quelques exemplaires sous la tente, mais c'est vrai que. Bon, ils ont été diffuseurs français quand même, et c'est là qu'ils s'attendent, nous semble-t-il. On reste à savoir si les gens vont suivre, si les lecteurs vont suivre. Dernier point au niveau des médias, est-ce que les médias généralistes parlent aussi de science-fiction régulièrement en Suisse? Je peux alors garder le micro pour parler justement de l'authentisme de la future insolite. Ça a eu un très bon écho. Effectivement, j'ai été très surpris moi aussi de voir que les grands journaux, les grands quotidiens, on en parlait, même l'Hebdo, on avait parlé, faire un article. Ils avaient, alors, comme à peu près au même moment, sortait ce livre et puis les livres de François Rouillet, il y a eu une bonne couverture médiatique avec même des illustrations des bouquins. Et je crois qu'on était vraiment très contents du résultat. Je ne sais pas ce que tu en penses, François.
Effectivement, il y a eu de bonnes retombées dans la presse généraliste. Il y a eu des retombées dans la radio. Laurence a eu un droit à une émission de téléjournal, donc une fois sur Vestige et Quantica. Donc il y a parfois des intérêts qui se manifestent dans la presse généraliste. Il y a eu également quelques échos dans la presse généraliste en France également. J'avais eu droit, par exemple, lorsque j'ai écrit mon essai sur stupéfiction, il y avait eu un article dans le Libération et il y a eu un article dans Le Monde sur Metakine, par exemple. Il y a quand même quelques retombées.
Ouais. Encore plus fort, on m'a demandé d'écrire un article pour un journal suisse allemand. Je m'appelle Littérari Chambronat, alors j'ai eu droit à mon premier article publié en allemand.
Je vais faire encore plus fort, je suis désolé. On m'a demandé d'écrire une nouvelle de science-fiction pour Nature, qui est sortie le 23 février, et qui a eu, après 5 jours, 22 millions de lecteurs. Donc, juste, je crois que la nouvelle a été relayée sur le site de la NASA. Donc, ça fait assez suite à une découverte scientifique, puisque je travaille avec des astrophysiciens. Et je crois que je suis la seule auteure suisse d'avoir été publiée dans Nature en tant qu'auteur de science-fiction, parce que c'est tous des auteurs américains, blancs, anglais, australiens et tout, mais ça a eu un impact juste énorme, puisque la nouvelle était tout de suite dans la foulée, traduite en plusieurs langues, et plusieurs propositions, etc., pour des suites, etc. Donc là, on voit que là c'est différent, en fait. L'impact de la science-fiction dans les pays anglo-saxons, là, c'est légèrement différent, et tout de suite, c'est un impact vraiment majeur.
Il me reste 5 petites minutes, parce que quelqu'un a une question à poser à nos participants.
Bernard Campiche, ce n'est pas du tout un éditeur science-fiction, c'est un éditeur de littérature générale. Et en fait, 2009, ouais, il est là. C'est des nouvelles de science-fiction, ouais, effectivement. Ce qui était amusant, c'est que j'étais au salon du livre dans un stand qui vendait un journal littéraire, et puis il y avait l'éditeur Campiche à côté. Bon, c'est vraiment des fois. Et on discute, et puis j'ai dit, ça vous intéresse, une anthologie de science-fiction en Suisse. Puis moi, j'étais sûr qu'il me dirait non, parce qu'un éditeur, la science-fiction, ça. Et il me dit, ouais, allez-y, faites-la. Ah bon. Et j'étais coincé, alors je l'ai faite. Ça m'a pris 2 ans pour la réaliser, mais enfin, on y est arrivé avec grand plaisir.
Est-ce qu'il y a une autre question à poser? Alors, moi, j'ai une dernière question par rapport, on parle de la Suisse francophone, mais par rapport à l'autre partie de la Suisse, est-ce que il y a de la perméabilité, est-ce qu'il y a des échanges ou pas du tout?
Genre, moi, je suis dans un cocon bilingue. Par ma connaissance, je suis moins au courant de ce qui se passe sur la scène de science-fiction alémanique en Suisse ou italophone. français, puisqu'il y a des choses qui existent quand même. Oh, en général, il y a plusieurs de. Au premier moment, le SF a été traduit en allemand à l'époque, et il s'est fait un peu de progressif. Juste, j'ai été contacté le mois passé par un doctorant suisse allemand qui fait une thèse sur les pièces radiophoniques. Les pièces radiophoniques en suisse allemand, mais aussi en suisse romande. Il avait besoin de renseignements. Et donc, il m'a demandé pourquoi en suisse romande le mouvement littéraire de science-fiction, fantasy, tout ça, était si vivant et si mobile, enfin si vivant. Et puis, il me disait, c'est pas la même chose en suisse allemande. Et moi, j'ai pas pu lui apporter d'explication. Enfin, voilà, j'ai dit, c'est comme ça.
Une info, peut-être, c'est que les choses sont en train de changer. Aussi, de l'autre côté, la Sarine, qui sépare la Suisse. Ça marche, moi, j'ai toujours un doute. Il y a actuellement une société de jeunes écrivains qui font dans la fantasy et la littérature de l'imaginaire et qui s'est en quelque sorte constituée en club sur le site internet. On peut les contacter, on peut les nommer, on peut voir chez quels éditeurs ils publient, etc. Et c'est un phénomène comparable à ce qui se passe en Suisse romande, c'est que la plupart de ceux qui publient en Allemagne, comme les auteurs francophones publient en France, et il y a très peu de ces écrivains, en tout cas dans ce groupe-là, qui publient en Suisse même, mais qui sont plutôt tournés sur l'Allemagne. J'ajouterais à ça qu'il y a des auteurs de littérature générale ou des auteurs de best-sellers, on a ça en Suisse aussi. Il y a un auteur comme Martin Souter qui a écrit au moins 2 livres qui relèvent de la science-fiction. Martin Souter, c'est un peu l'écrivain de best-sellers germanophones traduit dans énormément de langues, qui a été adapté au cinéma, etc. Et 2 au moins de ses ouvrages relèvent de la science-fiction. Évidemment, le label science-fiction n'apparaît pas sur ses ouvrages, mais de fait, il a écrit de la SF.
On va terminer là-dessus. Merci à nos intervenants. Vous pouvez les retrouver tout de suite en dédicace. Et puis tout de suite, une autre table ronde sur les sorciers. Merci à tous.